Bon, bonjour à tous. C'est la première conférence du cycle que nous organisons avec les écoles doctorales sciences humaines. Donc, je vous remercie d'être là. Il y a un livret qui va être disponible bientôt. Donc, vous aurez tous les résumés des conférences, mais en principe, elles sont aussi sur le site, je pense, de l'université. Donc, je remercie Valérie Schaffer, que je connais de réputation, mais que je n'avais jamais fait venir à l'espace Malestran. Vous êtes déjà venu chez nous dans d'autres occasions. Je pensais que.
Non, d'accord. C'est la première fois.
C'est la première fois. Très bien. C'est une bonne fois. Donc, vous allez nous parler de la neutralité de l'Internet, un débat partiel. C'est déjà un titre qu'il va falloir nous expliciter. Donc, vous êtes docteur en histoire, chargé de recherche à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Vous êtes l'auteur de La France en réseau, années 60-80, Le Minitel, l'enfance numérique de la France avec Benjamin Thierry, La neutralité de l'Internet, qui est ici un enjeu de communication avec Hervé Lecronier, les éditions Les Essentiels d'Hermès, CNRS Éditions, et Dans les coulisses de l'Internet, Réninter, 20 ans de technologie, d'enseignement et de recherche avec Bernard Thuy. Donc, vous êtes, c'est très, très bien qu'il y ait des historiens qui travaillent sur ce sujet, je voulais dire, parce que c'est un sujet très vaste et je pense que les mises en perspective sont intéressantes. J'ai vu dans votre ouvrage aussi qu'il y avait un glossaire, ce qui est absolument important parce qu'on emploie des mots quelquefois qui sont rentrés dans le langage, disons, vernaculaire, sans savoir vraiment ce que ça veut dire et qui ont rapport aussi à Internet. On voit ça tous les jours. Donc, c'est un grand plaisir de vous avoir chez nous et de vous écouter. Donc, vous avez une heure d'intervention. Donc, après, il y aura des questions de la salle. Merci beaucoup, Madame Schaffer.
C'est bon, celui-ci aussi. Voilà. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie sincèrement de cette invitation. Donc, c'est un plaisir d'être ici à l'espace Mendès France aujourd'hui pour vous parler effectivement de neutralité de l'Internet. Alors, évidemment, on va la définir et voir en quoi c'est un débat partial. J'entends ici un débat qui n'est pas neutre, hein, pour reprendre tout simplement l'expression « neutralité de l'Internet » et qui convoque de multiples parties prenantes aux valeurs, aux imaginaires qui sont parfois extrêmement divergents. D'où la complexité à l'heure actuelle de légiférer, comme certains le voudraient, sur la neutralité de l'Internet en France. Alors, ce n'est pas un sujet qui, à l'heure actuelle, occupe le devant de l'actualité. Il revient de façon récurrente. Hein. Ça a été le cas en 2010, lors de la consultation publique sur la neutralité de l'Internet qui avait été menée en France, qui a sûrement échappé à beaucoup d'entre vous et qui, à l'époque, très honnêtement, m'avait échappé. D'ailleurs, il n'y a eu que 361 réponses. C'est pour vous dire que ce n'était pas vraiment un appel qui a été largement entendu. Il y a eu également des échos au niveau européen au cours de ces années, diverses affaires judiciaires sur lesquelles on reviendra, et comme un serpent de mer, la volonté récurrente donc de poser une loi sur la neutralité de l'Internet qui, à l'heure actuelle, n'aboutit pas, on va voir pour quelles raisons. Alors évidemment, aujourd'hui, l'actualité est, je regardais l'actualité des technologies aujourd'hui, est beaucoup plus à d'autres thématiques, société de la surveillance, on a tous en tête le scandale de la NSA, et notamment Le Monde a nous annoncé aujourd'hui que le fisc, alors on n'entend pas par fisc aux États-Unis la même chose qu'en France, il s'agit ici de la Foreign Intelligence Surveillance courte, disait avoir du mal à contrôler effectivement les activités de surveillance de la NSA et avoir déjà plusieurs reprises tiré un certain nombre de signaux d'alarme, et notamment en 2004 déjà, il y avait eu un scandale au sein du FBI, des agences de sécurité, sur la surveillance que menait la NSA. Autre titre du Monde aujourd'hui, dans la rubrique technologie, je n'ai pas fait le tour de tous les quotidiens, mais c'était les 17 millions d'euros, de dollars, pardon, que Google s'engage à verser pour compenser ou régler, à l'amiable financièrement, une affaire de logiciel espion installé dans les machines d'utilisateurs, notamment de Safari, donc des utilisateurs d'Apple. Donc la surveillance, les écoutes électroniques sont un sujet qui mobilise actuellement largement les grands titres et qui nous montre à quel point les enjeux ici techniques, numériques, sont liés à des questions qui sont aussi des questions bien sûr économiques, mais aussi sociétales, géopolitiques, et on pourrait multiplier les facettes de ces questions qui touchent au numérique. Eh bien, la neutralité de l'Internet est un sujet certes moins spectaculaire que celui des écoutes électroniques, mais qui, par ailleurs, fait également très bien la démonstration de tous ces enjeux qui convergent autour de l'usage de l'Internet, pris ici au sens large, Internet et ses applications, que ce soit le web ou encore les réseaux sociaux. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, à quel point, lorsque l'on touche à des questions qui sont ici au départ des questions qui peuvent sembler relativement techniques, on va convoquer également des enjeux profondément économiques, sociaux ou encore politiques. Donc en prenant pour point de départ la neutralité de l'Internet et en la définissant, je vous montrerai que les architectures et modèles de l'Internet portent aussi des implications économiques, politiques et sociales fondamentales qui impliquent de repenser tout l'écosystème Internet, la chaîne de valeur, on pourrait dire, de l'Internet, mais aussi la place des États, des autorités de régulation, des internautes dans le dispositif. Alors, pour commencer, eh bien, on va évidemment s'intéresser à la définition même de la neutralité de l'Internet. Et en soi, déjà, on rencontre là une notion en constante évolution ces 10 dernières années, puisqu'on peut dater sa naissance de la fin 2002, début 2003 aux États-Unis. Donc, on va, ça c'est un peu le réflexe de l'historien, voir et analyser cette notion polysémique en revenant à sa genèse. Alors, le résumé ici est assez clair sur la notion, c'est l'idée que les bits, les paquets de données doivent être traités de façon égale. Pourquoi cette idée et quand est-elle apparue ? On peut revenir, alors évidemment c'est un peu illisible de loin, mais c'était des documents d'archives que je tenais là à faire apparaître. On peut remonter aux années 2002-2003, ce concept est forgé par Tim Wu, qui est un juriste qui enseigne à la Columbia Law School et qui est notamment connu pour son ouvrage « The Master Switch, The Rise and Fall of Communication Empires », où il montre comment, systématiquement, des empires, des télécommunications ont essayé de forger des véritables monopoles et ont fini par s'effondrer ou en tout cas être démantelés. Il pense en particulier à l'entreprise AT&T, qu'on a surnommé au début des années 1900 l'octopus pour sa tendance comme ça à s'étendre sur toute la chaîne de téléphonie, radio. Ils ont plusieurs domaines de compétences. Enfin, pas à l'époque, puisque au début des années 1900, on est surtout sur le téléphone. Mais Timou est profondément, en tout cas, intéressé par ces questions de monopole, d'empire de la communication. Il prédit d'ailleurs un risque d'effondrement des empires de la communication actuelle. On pense à Apple, Facebook et encore d'autres. Et à l'époque où il parle, en 2002-2003, de la neutralité de l'Internet, à l'époque où il crée ce concept, accompagné de Lawrence Lessig, un grand nom, notamment fondateur des licences Creative Commons, et qui incarne à lui seul une des facettes du libre, ou en tout cas de l'ouverture dans le domaine de l'informatique. Il s'agit de s'opposer pour Timou et Lawrence Lessig, au moment de la diffusion des réseaux large bande, à l'idée que les opérateurs pourraient négocier avec les fournisseurs de contenu et, en gros, mettre fin à cette égalité, on va dire, de circulation des données qui faisait la signature de l'Internet bas débit. Alors, on va voir qu'on retrouve à chaque changement, on pourrait dire, technologique, cette ambition aussi de changer les règles du jeu et d'imposer, justement, ou en tout cas de faire accepter l'idée que les opérateurs, les fournisseurs de contenu pourraient négocier entre eux pour, on va voir, pour leur motivation un petit peu plus tard. Donc, Timou et Laurence Lessig vont, à ce moment-là, adresser une lettre ouverte, hein, notamment à la Federal Communication Commission, la FCC, dont je vous parlerai à plusieurs reprises, qui est une autorité de régulation états-unienne. 4 ans plus tard, en 2007, l'affaire, on va dire, rebondit. Elle rebondit à l'occasion d'une affaire qui va commencer à vous donner une idée des enjeux qui sont derrière cette question de la neutralité de l'Internet. C'est l'affaire Comcast. Comcast est accusé de restreindre l'accès de ses usagers à un certain nombre de contenus, en particulier à BitTorrent. Alors, on verra que dans cette question de la neutralité de l'Internet, il y a notamment l'idée de ralentir, bloquer certains contenus, et souvent les contenus, pas forcément toujours illégaux sur BitTorrent, mais en tout cas les transferts de fichiers, les partages, que ce soit de musique, de vidéo, etc., peuvent servir de prétexte, en tout cas, à des discussions sur la neutralité de l'Internet. Donc la FCC se penche en 2007 sur cette affaire, à savoir, Comcast restreindrait l'accès à BitTorrent, bloquerait un certain nombre de flux de données ou ralentirait les flux de ses utilisateurs. Et on sait que le temps judiciaire, on va dire, n'est pas forcément celui de l'actualité. En 2010, la FCC va adopter, à 3 voix contre 2, ils sont 5, là, en l'occurrence, à représenter la FCC et à voter, un texte sur la neutralité de l'Internet, disant, en gros, qu'on ne doit pas ralentir ou brider des flux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, évidemment. On peut toujours mettre en avant ensuite un certain nombre d'entorses ou de règles différentes en ce qui concerne des contenus, par exemple, à caractère pédopornographique ou des contenus illégaux. Mais l'idée générale, pour la plupart des usages, c'est on ne restreint pas l'accès aux applications et à un certain nombre de contenus. Ceux qui commençaient à s'intéresser sérieusement, on est là en 2010, à la neutralité de l'Internet, devraient se réjouir d'une telle décision. Et pourtant, certains grincent des dents en trouvant que le texte est en soi un peu limité. En fait, il statue sur l'Internet fixe, mais pas sur le mobile. Le prétexte étant que dans le cas de l'Internet mobile, on peut avoir des ressources hertziennes plus limitées, et donc l'idée de ménager, on pourrait dire, la bande passante ou de restreindre un certain nombre de flux ou d'usages qui seraient fortement consommateurs de bande passante. Vous m'interrompez, bien sûr, si à un moment vous décrochez dans mes histoires de bande passante et de flux, surtout si au terme de mon explication de la neutralité, le concept n'est absolument pas clair, il faudra bien évidemment me le dire. Sachant que je suis en train de vous montrer que c'est un concept en plus en évolution et qui est assez polysémique, on va le voir. Donc l'Internet mobile repose sous les couverts d'une nouvelle technologie la question de la neutralité de l'Internet. Doit-elle être incluse ou pas dans cette décision de la FCC. En particulier, vous savez que certains protocoles, usages peuvent être restreints. Par exemple, la voie sur IP a été bloquée par un certain nombre de fournisseurs d'accès. Est-ce que le fait qu'il y ait une bande de fréquence allouée le justifie ou pas ? Aux yeux de certains groupes de pression, en tout cas, comme le groupe Free Press, ça n'est pas une bonne raison. Alors, vous vous doutez que cette intervention de la FCC n'a pas franchement fait le bonheur de Comcast, qui réagit devant les tribunaux et qui, en avril 2010, remporte une victoire lorsqu'on appelle la FCC et désavouée de ses décisions contre Comcast, pas du texte qu'elle a par ailleurs pris sur la neutralité de l'Internet, avec le soutien d'ailleurs de la Maison Blanche. Et les raisons qui font que la décision de la FCC vis-à-vis de Comcast est cassée, c'est l'idée qu'en gros cette agence a outrepassé ses capacités de décision. On est là dans une logique libérale qui joue à plein. Certains jugent en effet prématuré, et c'est souvent l'argument des opposants à la neutralité de l'Internet, toute intervention dans ce champ, en disant tout simplement que les affaires sont rarissimes, qu'il n'est absolument pas nécessaire de les porter ou en justice ou de légiférer sur ces questions, l'idée étant de laisser prévaloir et trancher en gros le marché. Alors, c'est la position d'un certain nombre d'opérateurs et d'acteurs, évidemment des technologies de l'information et de la communication, en particulier Alcatel, Lucent et d'autres, très proches d'un groupe qui s'appelle Ends of the Internet, demandent au contraire à ce qu'on ne légifère surtout pas sur la question de la neutralité. Et pourtant, les affaires judiciaires depuis les années 2010 se multiplient. Par ailleurs, on va le voir à travers les exemples très concrets que je vais vous présenter ensuite, le débat s'est déplacé, ou en tout cas est passé, des États-Unis également au territoire européen à partir de 2008, à la faveur notamment de réflexions sur ce que l'on appelle le paquet télécom, de nouvelles législations au niveau européen sur le domaine des télécommunications. On voit alors la notion de neutralité de l'Internet arriver dans les discussions. Alors, est-il prématuré pour légiférer? Est-ce que les affaires sont si marginales qu'on peut le penser? Est-ce que, en gros, cette affaire Comcast restreignant les accès à BitTorrent est une exception de 2007 et le débat, en gros, est pratiquement inexistant? Eh bien, pas tant que ça, et pas tant que ça depuis notamment quelques années. Alors, je vais vous donner quelques exemples pris au fil de l'actualité. Ceux qui suivaient le site OVNI ont pu voir en août 2011, notamment, un article qui s'inquiétait en France de la fin de l'Internet illimité, un document secret de la Fédération française des télécoms fuité à ce moment-là et montré qu'il était question éventuellement de créer des accès, on pourrait dire, à plusieurs vitesses, de mettre fin à l'Internet fixe illimité. Document immédiatement, enfin démenti très rapidement. Orange, SFR et les autres vont faire marche arrière, on pourrait dire. Toutefois, on voit là un émoi notamment qui agite la toile. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément pour autant un débat ou un émoi qui agite l'opinion publique. On trouve en particulier un certain nombre de sites et d'acteurs extrêmement vigilants sur le net. C'est un médium, condition qu'on veuille le définir comme tel, largement autoréférentiel et qui aime à s'occuper. Le web s'occupe beaucoup de ce qui concerne le web et l'Internet. Toujours est-il qu'on voit là quand même des réactions assez fortes, alors notamment des associations aussi de consommateurs qui s'inquiètent de cette fin possible de l'Internet illimité, beaucoup moins d'un certain nombre de mesures qui auraient pu être envisagées à ce moment-là, et notamment d'un accès restreint ou en tout cas surtarifé à un certain nombre d'échanges ou de protocoles, échanges pair à pair, par exemple, accès à des newsgroups, ce qui était au départ les usages, on pourrait dire, originels de l'Internet. Ce qui pose des questions sur, évidemment, l'Internet que nous voulons, les usages que nous souhaitons faire, et est-ce qu'on veut un accès, en gros, alors à un Internet qui ne serait plus un Internet, on pourrait dire, en tant que tel, mais qui ne fournirait, par exemple, qu'un accès au web ou qu'un certain nombre d'usages extrêmement limités, ce qui n'est pas de la science-fiction. On voit par ailleurs sur les mobiles des forfaits qui maintenant ne donnent plus accès qu'à Facebook ou qu'à un certain nombre de réseaux sociaux et qui limitent les usages de ce qui n'est plus des usages finalement de l'Internet au sens large. Donc en tout cas, première affaire, on pourrait dire, qui est peut-être une non-affaire, un document en tout cas qui fuite et qui relance le débat, ce papier d'août 2011. Quelques mois auparavant, en 2010, avait donc été lancée cette consultation publique sur la neutralité de l'Internet par Laure de la Rodière et Corinne Hérel, respectivement de l'UMP et du PS. Donc sur ces questions, hein, on peut trouver des clivages, tout au moins en France, enfin, qui sont dépassés, hein, entre PS et enfin, entre la gauche et la droite. C'est un petit peu moins le cas aux États-Unis, où on voit largement quand même, hein, une fracture entre des démocrates plutôt favorables à la neutralité de l'Internet, des républicains qui sont plutôt hostiles, hein, en espérant ne pas trop caricaturer cette affaire. On continue notre petit tour, hein, pour montrer que cette question surgit dans l'espace médiatique, mais aussi politique, hein, en évoquant une affaire d'octobre 2012, cette fois-ci, qui se pose sur la question de ce que l'on appelle la Deep Packet Inspection, hein, l'idée d'aller fouiller dans les paquets de données, savoir ce qu'ils transportent, quelle est leur caractéristique. Affaire qui touche Orange. On soupçonne Orange de vouloir ainsi mieux cibler ses publicités, hein, destinées aux internautes. On retrouve ici, hein, la même question que celle d'actualité. Vous voyez que ce n'est pas si éloigné pour notre propos de Google avec ses logiciels espions, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes façon de procéder. En octobre 2012, hein, certainement pas un hasard de l'actualité, mais Laure de la Rodière, justement, propose une loi, hein, sur la neutralité de l'Internet, en tout cas un Internet qu'elle qualifie de neutre et de qualité suffisante. Alors là, on pourra débattre, hein, du choix des mots. Qu'est-ce qu'une qualité suffisante ou pas ? On verra que c'est peut-être pas... Le terme de qualité va se poser sous d'autres formes ensuite. On le verra au niveau européen. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Dans le même temps, l'ARCEP, qui est une autorité de régulation française, hein, des communications en gros électroniques et de tout ce qui touche à ces moyens de communication, va rendre un rapport qui, au contraire, est défavorable à une loi sur la neutralité de l'Internet. Donc là, on est dans une période importante, hein, d'actualité où les rapports répondent aux rapports. C'est pas le premier, d'ailleurs, de l'ARCEP. Et on voit d'un côté des projets de loi, hein, déposés. Laure de la Rodière et Corinne Hérel n'étaient d'ailleurs pas les premières, hein, à proposer une loi. Il y avait eu avant un député, Christian Paul, qui avait aussi proposé une loi en faveur de la neutralité de l'Internet. Et dans le même temps, eh bien, l'ARCEP, elle, est défavorable, hein, à cette décision. Alors, il y a d'autres, à Bercy également, hein, on fait des rapports sur la neutralité de l'Internet, et ailleurs, on pourrait... Ainsi, je ne l'ai pas fait pour ce soir, mais cartographier, hein, les nombreux rapports et les autorités dont elles émanent qui se multiplient ces dernières années. En septembre 2012, nouvelle affaire, et là je reste, hein, sur le sol français, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des affaires qui peuvent être assimilées aux questions de neutralité de l'Internet, que ce soit en Corée ou en Australie ou au Canada, mais enfin prenons des exemples peut-être pour démarrer qui nous parlent peut-être plus facilement. C'est le cas de Orange et de Cogent. Alors peut-être certains l'ont-ils entendu. En gros, Orange, fournisseur d'accès, est là en très forte opposition avec Cogent, un opérateur de transit qui fait donc circuler des flux et qui les passe à Orange, qui fait du transit, hein, de flux vers Orange. Vous savez que l'Internet, c'est un réseau des réseaux qui doit assurer, hein, l'interconnexion de multiples réseaux. Bref, Cogent passe des flux à Orange qui se plaint que ces flux sont complètement asymétriques et que les flux qui viennent de Cogent vers Orange sont 13 fois supérieurs aux flux que Orange envoie vers Cogent. En général, les échanges de trafic se faisaient sur des bases plus ou moins gratuites, hein, ou en tout cas à condition que les flux soient symétriques. Or, ce que nous dit Orange, c'est que Cogent lui envoie des flux méga-upload. On retrouve ici, après BitTorrent, hein, un autre acteur important d'échange, hein, de flux. Et dit, dans ces cas-là, on aimerait aussi que Cogent, hein, qui nous envoie comme ça des flux qu'on transporte, paye. Et que les échanges ne se fassent pas gratuitement. C'est complètement asymétrique et on y perd. Et c'est une première importante, hein, et on peut dire mondiale. L'autorité de la concurrence française dit que Orange est en droit de demander à Cogent des rétributions pour transporter ces flux importants, tout en étant extrêmement vigilant dans la mesure où Orange a lui-même un opérateur de transit, hein, qui s'appelle Open Transit, et il s'agit évidemment de s'assurer que ce n'est pas là une manœuvre, hein, pour favoriser son propre opérateur de transit. Bon, voilà des questions, hein, qui deviennent extrêmement concrètes sur, en gros, des échanges de flux, le caractère asymétrique de ces flux. Autre affaire, et celle-ci vous parlera peut-être, alors il y a eu tout un débat sur est-ce que c'était réellement ou pas une atteinte à la neutralité de l'Internet, il me semble qu'en tout cas ça n'est pas hors sujet, loin s'en faut, c'est l'affaire en février 2013 de Free. On a parlé du Free Adgate, certains se souviennent peut-être avoir vu disparaître les bandeaux publicitaires pendant quelques jours, hein, de leur page, et en particulier les publicités qui émanaient de Google. Alors là, il y a un extrait de Big Geek qui explique, hein, cher Freenode, depuis le 3 janvier 2012, Free a déployé une mise à jour sur sa Freebox, bloquant automatiquement les publicités sur Internet. BigGeek.fr existe maintenant depuis plus de 5 ans et fournit quotidiennement un flux d'informations gratuitement, grâce notamment à la publicité. En bloquant par défaut, sans vous avertir et sans filtrage, les publicités sur Internet, Free met en danger toute une économie déjà fragile et nos emplois. Alors, on se dit, bon, première vue, est-ce qu'on met ça dans la catégorie neutralité de l'Internet et quels sont les enjeux? C'est pas si évident que ça. En gros, il s'agit d'un bras de fer entre Free et Google, puisque Free se plaint là encore en tant que fournisseur d'accès, transporteur de flux, des flux très importants qu'il reçoit, notamment de YouTube, et demande à être rémunéré pour transporter ces flux très importants, disant en tant qu'opérateur de transit, enfin opérateur, pardon, fournisseur d'accès, pas opérateur de transit, fournisseur d'accès, je n'ai pas, moi, à assumer en permanence, hein, en gros, une évolution de mes infrastructures, parce que derrière, des contenus de plus en plus lourds ou importants me sont fournis sans que les fournisseurs de contenus ne contribuent. Et pour créer ce bras de fer, entre guillemets, est-ce que réellement Free croyait ou est-ce que c'était symbolique? Est-ce que c'était une façon de reporter l'affaire sur la scène médiatique? Ça a été en tout cas extrêmement efficace, dans la mesure notamment où beaucoup d'organes de presse, hein, vivent aussi sur Internet grâce à la publicité et ont été extrêmement sensibles, hein, à cette question. Pas forcément en allant dans le sens de Free, hein, mais... Donc la question, c'était en gros créer un rapport de force ou en tout cas mettre un coup de projecteur sur cette question de la part de Free en bloquant les publicités. Alors, est-ce que dans cette bataille de la communication, ils ont gagné ou pas? Très rapidement, c'est les mois, hein, Fleur Pellerin et un certain nombre, enfin les médias, tout le monde s'intéresse à cette affaire. Donc le débat est suscité. Toutefois, Free est assez critiqué, en particulier parce que la publicité, c'est effectivement, et en cela, on peut dire que c'est une affaire qui concerne la neutralité de l'Internet, ce sont des contenus, hein, comme les autres, c'est donc bloquer des contenus abusivement, puisqu'on vous dit en plus, il n'y a eu, hein, ni avertissement, hein, c'est à la faveur d'une mise à jour de la Freebox, hein, que cette mesure a été intégrée par Free. Donc les critiques sont assez unanimes, hein, pour dire que ce ne sont pas des manières de procéder, mais posent quand même, hein, la question ici des rapports entre géants américains, on va dire, de l'Internet et acteurs français. Quelques mois plus tard, hein, je ne sais plus si c'était mars ou avril, le Conseil national du numérique rend un nouvel avis ou rapport, se prononçant à nouveau en faveur de la neutralité de l'Internet. En septembre 2013, on pourrait, je saute là quelques événements, mais on a une nouvelle affaire cette fois-ci sur le sol américain. Il s'agit de l'opposition de Verizon à la justice américaine. Verizon voulant créer des services premium et un Internet, on va dire, à plusieurs vitesses, offrant des accès prioritaires à certains contenus en fonction, évidemment, de l'adhésion à des services premium. Donc je pense que là, on commence à se faire une idée d'une question qui est loin d'être simple. On voit qu'il y a plusieurs facettes, plusieurs affaires qui ne sont pas toujours similaires. D'un côté, on bloque les publicités. De l'autre côté, c'est la volonté d'offrir des services à plusieurs vitesses. On se rend compte en tout cas que le problème n'est pas seulement de bloquer ou pas des données qui circulent dans l'Internet, mais devient l'accès à des contenus, à des applications, les rapports qu'entretiennent les internautes, les fournisseurs d'accès, les fournisseurs de contenus. On commence à voir un peu, du moins je l'espère, me dites si c'est pas du tout clair, mais le paysage ou les enjeux apparaître. Alors, toutefois, en vous décrivant à la fois ces actualités, en vous disant, par exemple, il y a eu un débat sur est-ce que c'était ou pas de la neutralité de l'Internet, cette histoire de blocage de la pub, on peut discuter sur ces termes, on rencontre en fait une notion qui est finalement assez complexe et polysémique. Et c'est bien là une des difficultés du débat et des législations à prendre ou pas, c'est que les parties prenantes ne s'entendent pas sur le périmètre même de la neutralité de l'Internet et le contenu de cette notion. Alors, pour quelles raisons ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut tout d'abord souligner à quel point c'est une notion qui, d'un point de vue imaginaire, est parlante. Alors oui et non, parce que beaucoup pensent que la neutralité de l'Internet, c'est la neutralité des contenus. Par exemple, le neutral point of view sur Wikipédia, l'idée qu'un article doit défendre un point de vue neutre. Donc il y a une ambiguïté, c'est pas du tout en termes de neutralité du contenu d'une information qu'on est là, mais effectivement plutôt sur la circulation des données. Toutefois, il y a une forte valeur symbolique dans tout ce vocable qui tourne autour de la neutralité de l'Internet. On parle de discrimination, on parle d'égalité à la fois des paquets de données qui circulent, des informations qui circulent, mais aussi derrière, on va le voir, évidemment, de l'accès à l'information et des internautes. On parle d'équité. Donc, il y a tout un vocabulaire ici de la justice, évidemment, qui entre en jeu. Toutefois, comme le notent Nicolas Curien et Winston Maxwell, qui sont les premiers auteurs, on pourrait dire, d'un livre sur la neutralité de l'Internet qui était vraiment pédagogique et explicatif. Nicolas Curien, qui d'ailleurs est investi dans l'ARCEP. Ce que notent Nicolas Curien et Winston Maxwell, c'est le mot « discrimination », puisqu'on est bien là sur la question de la discrimination des données, a une connotation extrêmement négative qu'il ne mérite pourtant pas, nous disent-ils. Dans un langage neutre de l'économie ou du droit, et c'est de ces disciplines qu'ils viennent, ou du droit de la concurrence, excusez-moi, discriminer, c'est tout simplement différencier. Par exemple, proposer des produits personnalisés ou des options tarifaires diversifiées à différents types de consommateurs. Et ils prennent un exemple, celui de l'autoroute. Ils nous disent donc, un petit peu plus loin, d'ailleurs dès le début de l'ouvrage, comme ça le décor est posé, une société d'autoroute est neutre en ce sens qu'elle pratique certes la discrimination efficace, en gérant et signalant les bouchons, en imposant des horaires de circulation aux poids lourds, en proposant aux usagers des options tarifaires différenciées, mais ne pratique pas en revanche la discrimination anticoncurrentielle ou restrictive de liberté. Sur les bretelles d'accès, elle ne bloque ni les voitures bleues, ni celles immatriculées dans le Loiret. Note donc Nicolas Curien et Winston Maxwell. Bon, alors évidemment, ça pose plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'effectivement une neutralité de l'Internet est encore possible ? Lorsqu'ils évoquent les sociétés d'autoroutes, ils disent elles gèrent et elles signalent les bouchons. Et effectivement, on pourrait dire que la neutralité de l'Internet pure n'existe déjà plus. Il y a des mesures de gestion du trafic. On essaye par moment d'éviter la congestion. On pourrait aussi évoquer la lutte anti-spam ou d'autres éléments qui peuvent dire on n'aura plus jamais un modèle entièrement neutre de neutralité de l'Internet. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le concept, hein, évidemment, a jeté à la poubelle. Ils nous disent ensuite, finalement, des horaires de circulation au poids lourd. Hein. Après tout, d'ailleurs, c'est pas une idée qui est poser en termes d'horaire, mais en termes de tarifs, pourquoi pas faire payer davantage, on voit que ça a été envisagé, aux poids lourds, entre guillemets, ceux qui en tout cas encombrent hein, les bandes passantes des réseaux, ce qu'on a qualifié parfois de net goinfres. Hein, pourquoi cela ne paierait-il pas plus que celui qui est beaucoup moins consommateur hein, de bandes passantes ? C'est une question qui peut être posée. Des options tarifaires différenciées. Voilà une solution qui, très concrètement, hein, est envisageable et envisagée. La question que je pose, c'est est-ce que cette analogie est acceptable aux yeux de Curien et Maxwell ? Tout à fait. Je suis franchement plus partagée, et pourtant c'est une métaphore hein, autoroutière qu'on retrouve de manière récurrente. Rappelez-vous d'ailleurs, hein, au milieu des années 90, ce rapport de Gérard Théry, qui fut directeur général des télécommunications et qui commet un rapport sur les autoroutes de l'information. À l'heure, on ne parlait pas encore hein, réellement d'Internet. Alors, est-ce que cette métaphore autoroutière est satisfaisante ? Bon, il me semble que lorsque l'on parle de circulation d'informations, à l'heure actuelle également de société de la connaissance, l'image uniquement de la bretelle d'accès du tuyau qui transporterait ainsi des données est assez insatisfaisante. Du moins, voilà, je pense que l'Internet au sens large est plus peut-être qu'une simple autoroute sur laquelle il suffirait de mettre des péages, des barrières. Mais vous voyez en tout cas que c'est une image hein, qu'on trouve largement répandue, celle l'autoroute. Donc elle n'est, selon moi, même si elle est pédagogique, évidemment pas sans danger, elle renvoie à cette image de l'autoroute de l'information et réduit aussi à l'information en oubliant la communication, hein, l'outil Internet, je vous dis là au sens large. Soulignons par ailleurs que d'autres cherchent à faire glisser cette notion vers l'idée d'Internet ouvert. On ne parlerait plus alors d'Internet neutre, mais d'Internet ouvert. Alors là, c'est compliqué là encore pour plusieurs raisons. C'est que tout le monde n'entend pas dans le terme d'open, tout simplement les mêmes choses. Qu'est-ce que l'openness hein, en termes de réseau ? Il est intéressant notamment de revenir à un des des pères fondateurs, on pourrait dire, de l'Internet, qui est David Clark, qui, notamment, en 90, a reçu un des prix importants hein, de la communauté Internet, un Sishcom Award, pour sa contribution à l'Internet, et qui est pourtant un avocat important de l'idée d'ouverture, mais qui expliquait dans un article paru en 2007, hein, Network Neutrality, Worlds of Power and 800 pounds, hein, Gorillas, excusez-moi l'anglais, mais que ce mot de open était devenu ce qu'il appelait une espèce de mot slogan autocollant hein, qu'on mettait à toutes les sauces et qui notamment servait aussi des grandes entreprises qui voulaient là hein, finalement asseoir leur liberté. Donc derrière l'idée d'open, et on peut même parler à l'heure actuelle pour certains à la manière du greenwashing, on a de l'open washing, hein, on lave open ses vendeurs, d'utilisation de l'idée d'ouverture qui n'est pas celle que reconnaîtraient par exemple les communautés du logiciel libre ou d'autres. Donc le terme open, il est compliqué. Toutefois, pour certains, l'idée de parler d'un Internet ouvert, ce serait élargir la notion de neutralité de l'Internet à toute la chaîne de l'Internet. À l'Internet en général, en disant en gros, quand vous parlez de neutralité, on est vraiment sur le transport des paquets, les flux. Il faudrait se demander si sur toute la chaîne, il n'y a pas des atteintes à la neutralité. Et est-ce que finalement, et en cela, on rejoint une idée du fondateur du web, Tim Berners-Lee, il n'y a pas également des dangers qui pèsent à d'autres niveaux que le simple transport d'informations. Je vous prends quelques exemples. C'est la difficulté à exporter, par exemple, un certain nombre de données d'un réseau social à un autre. Et dans un article également de 2010, Long Live the Web, le fondateur du web, Tim Berners-Lee, lançait un appel pour le maintien de l'ouverture des standards en général de l'Internet et de la neutralité qui ne doit pas être uniquement une neutralité là, de circulation des données. On reviendra sur ces questions un petit peu plus tard. Donc, voilà qui, me semble-t-il, en tout cas, permet, et je surveille en même temps le temps, de se rendre compte un petit peu à la fois des difficultés à délimiter ce concept de neutralité dans un sens où limité étroitement aux couches transport, on pourrait dire aux couches bases de l'Internet, et en même temps on se rend compte que dès qu'on touche au transport d'information, on touche aussi au contenu, ou alors au contraire, faudrait-il élargir cette notion et créer des droits, entre guillemets, je ne lance pas un appel à cela du tout, mais des droits de l'internaute, ou en tout cas un accès électronique, certains iraient dans un sens beaucoup plus large. En tout cas, toutes ces questions témoignent, et c'est ce que je vais vous montrer dans un second temps, de tensions réelles qui traversent tout un écosystème Internet qui s'interroge notamment sur sa chaîne de valeur. Alors, je suis peut-être allée un peu vite en vous montrant ce tableau un peu effrayant de cette chaîne qu'on pourrait encore complexifier. Et je vais donc revenir en arrière, puisque ces gorilles de 800 kilos qui peuvent s'asseoir où ils veulent, je n'ai pas explicité la métaphore, c'est une blague aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, qui dit en gros où s'assied un gorille de 800 livres, où il le souhaite, c'est l'idée que les méga entreprises de la communication peuvent se mettre où elles le veulent sur la chaîne Internet. Et donc, on a actuellement des tensions dans notre écosystème Internet. Vous avez bien compris que l'idée de neutralité portée en germe, de façon très concrète, devant la justice, la question d'accord possible entre certains acteurs de l'Internet, et notamment entre des fournisseurs, par exemple, de contenu et des fournisseurs d'accès. Or, derrière ces questions, c'est tous les principes, c'est les principes fondateurs même de l'Internet qui seraient remis en question. Là encore, je ne porte pas de jugement sur faut-il ou pas les remettre en valeur, faut-il s'accrocher ou pas aux principes fondateurs qui ont été la marque de l'Internet des années notamment 70. En particulier, on a un changement complet de public, de contenu entre les premiers usagers de l'Internet, fin des années 70 ou début des années 80, qui sont largement des utilisateurs issus du monde scientifique, des communautés entre pairs qui échangent des fichiers, qui échangent des messages dans les, où règne, on va dire, une étiquette, où les usages, d'ailleurs, sont financés par le secteur, notamment public, de la recherche ou de l'enseignement. Et aujourd'hui, où, évidemment, l'Internet est un enjeu beaucoup plus global, supportant des enjeux financiers et commerciaux énormes, mais aussi des usages sociaux, politiques et autres, et évidemment, beaucoup plus d'usagers. Mais en tout cas, cette question de la neutralité nous amène, et c'est d'ailleurs par ce prisme que j'étais rentrée dans la question de la neutralité, à revenir au fondement de l'Internet, avec David Clark notamment, qui, s'il s'intéresse à la neutralité de l'Internet, en tant qu'un des figures des débuts de l'Internet, ne le fait pas par hasard. C'est bien que cette question de la neutralité pose des questions à l'Internet et remet en cause des principes, et en particulier deux principes, celui du best effort et celui du end-to-end, du bout en bout. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux choses ? Alors, le principe du best effort, c'est l'idée, dans les années 70, quand est défini le protocole phare de l'Internet, qui est le protocole TCP/IP, que, en gros, le réseau fait au mieux pour livrer les paquets. Or, parfois ça se perd, parfois ça marche pas, bon, on l'accepte, la qualité de service n'est pas garantie, mais du moins, voilà, c'est du best effort, et tout le monde est traité de la même façon. Deuxième chose, non moins fondamentale, le end-to-end, ce que Dominique Cardon résumait dans son ouvrage « La démocratie Internet » par l'idée, alors je reprends cette métaphore, de l'intelligence à la périphérie. L'idée, en tout cas, c'est que l'intelligence n'est pas au cœur du réseau. Ce n'est pas le réseau qui doit gérer. L'intelligence, elle est au bout. Elle est dans les terminaux. Et finalement, le réseau est un réseau, alors là, pour le coup, neutre. C'est des tuyaux qui font passer l'information. Et voilà, ils n'ont pas à aller chercher ce que contiennent les fichiers ou autres. Alors, on est là dans le contexte du milieu des années 70. Et déjà à l'époque, il faut bien voir que cette question ne recueille pas du tout l'unanimité. Alors, je vais faire une petite digression dans le champ historique, mais elle me semble importante. Cette idée de best effort, elle a été portée notamment par un acteur français de l'histoire des réseaux de données et de l'histoire de l'Internet qui s'appelle Louis Pouzin. Peut-être ce nom évoque-t-il à certains d'entre vous quelque chose. Il vient de recevoir un prix, le prix Queen Elizabeth d'engineering, aux côtés de Wynton Cerf, Robert Kahn, Marc Andreessen et Tim Berners-Lee. Donc aux côtés de Wynton Cerf et Robert Kahn qui ont fait le papier qui va définir le protocole TCP/IP, ce protocole clé de l'Internet en 1974. Tim Berners-Lee, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le fondateur du web, et Marc Andreessen, qui est le fondateur d'un navigateur qui va assurer notamment le succès du web, qui est Mosaic, en 1993. Alors, que vient faire Louis Pouzin au milieu de tous ces grands noms ? C'est qu'il est, lui aussi, un grand nom de l'Internet. Louis Pouzin travaillait entre 71 et 79 à un réseau qui s'appelait Cyclade. C'est un réseau qui était hébergé à l'Institut de recherche en informatique et automatique, l'IRIA, qui est aujourd'hui l'INRIA. Et il a bâti un réseau de données très proche à l'époque d'un des ancêtres de l'Internet, qui est le réseau ARPANET. Et c'est lui notamment qui invente le concept, toujours en vigueur aujourd'hui, de datagramme, c'est-à-dire ces petits paquets de données qui circulent dans le réseau en utilisant des chemins différents, et on reconstitue le message à l'arrivée. Il est reconnu pour cet apport à l'histoire de l'Internet, d'avoir ainsi défini la manière dont circulent les paquets de données dans le réseau. Et il conçoit, avec son équipe, bien sûr, je ne rends pas hommage ici à toute l'équipe Cyclade, mais en l'occurrence, il n'était pas seul à penser ce réseau. Il donc pense à un réseau qui repose sur cette commutation de paquets et sur déjà l'idée de best effort. En gros, les paquets font au mieux pour atteindre le destinataire, et puis parfois, ils se retrouvent à tourner tout seuls dans le réseau, ils sont perdus, etc. C'était pas une idée qu'elle est du tout d'évidence. Et déjà, dans cette période, l'idée va recueillir des critiques vigoureuses des acteurs des télécommunications. Les télécoms ne sont pas du tout favorables à cette idée de best effort. Et en particulier en France, une équipe, alors qui aurait pu ne pas être une équipe rivale, mais qui le devient, une équipe des télécoms qui est en train de développer un réseau que vous avez, pour certains, sûrement utilisé, qui est le réseau Transpac, qui a ouvert en 1978, qui s'éteint en 2012 et qui transportait le trafic Minitel. Et les fondateurs de Transpac, à l'époque, mettent déjà en garde en disant « Mais attendez, c'est complètement délirant votre idée de vouloir faire circuler comme ça des paquets qui se perdent, mais comment on assure de la qualité de service dans le réseau. Comment voulez-vous qu'on facture à des usagers quelque chose dont on dira bon, ça marche cas, et puis voilà, hein, c'est du best effort, et puis et voilà. Donc il y avait déjà des tensions, ou en tout cas des conceptions différentes entre un truc, on pourrait dire, d'informaticien, vraiment la formule des pionniers de l'Internet, rule consensus and running code, en gros, du code qui tourne, du consensus approximatif, et puis voilà, et c'est déjà pas mal. Et puis un milieu des télécoms qui disait, mais attention, nous, on fait des choses soignées, on les propose à des clients, et Louis Pouzin reconnaît qu'il ne s'était pas du tout intéressé, ce n'était pas son job, au problème de commercialisation ou de facturation. Mais on voit bien déjà dès les années 70 que ce genre de choix pose des questions aussi en termes de tout simplement économiques ou d'entreprise. C'est-à-dire je fournis un accès en disant ça marche ou pas, et certains prônent effectivement dans des mesures qui vont à l'encontre de la neutralité de l'Internet le fait qu'il faut gérer le réseau, qu'il est devenu finalement une épine dorsale, un vital de multiples activités, et qu'il n'est pas question, et on voit d'ailleurs des réseaux privés se développer, des services, bon, de laisser les choses se faire n'importe comment. Hein. Et donc les évolutions vers la qualité de service sont régulièrement mises en avant par un certain nombre de fournisseurs d'accès qui disent le best effort, hein, c'est pas possible. Et forcément, le bout en bout non plus dans ces cas-là. Si on veut contrôler le réseau et le transport des données, ben, il faut bien mettre un peu d'intelligence dans le réseau. Je continue très rapidement, enfin je clôt cette parenthèse, mais ce petit tour historique en schématisant, en disant par ailleurs qu'il y a eu un basculement lié à l'arrivée du web, et à la massification des usages qui a modifié les règles de l'Internet, et en particulier qui a eu tendance d'un réseau qu'on voyait comme plutôt pair à pair, d'échanges entre pairs, sans que ça efface cet usage, à une transition vers un réseau que certains qualifient de plus en plus de réseau qui s'est verticalisé, à l'image vraiment des médias de masse, où finalement une masse d'internautes va réclamer à des grands fournisseurs de contenu des usages descendants sans en être même producteur. Donc il y a une création par les usages du grand public, des internautes. Il y a eu donc une évolution vers une asymétrie des flux réclamée par les usagers, qui était de moins en moins de l'horizontalité de l'échange pair à pair, mais de plus en plus un système un peu de diffusion, un système downstream qui a modifié également les usages de l'Internet et forcément la symétrie ou pas des flux. Donc, des principes fondateurs peu à peu érodés. Alors, avec toutes ses qualités et ses défauts, c'est-à-dire qu'on ne va pas déplorer le fait que l'Internet soit devenu un outil de masse, au service en tout cas largement des populations, que le web est certes un peu verticalisé, la chaîne ou l'écosystème Internet, et en même temps, il donne effectivement accès à de multiples informations. Toujours est-il qu'on a une évolution et forcément aussi une chaîne de valeur de l'Internet qui va être en recomposition, pas seulement sous l'effet du web, mais aussi aujourd'hui de, par exemple, des usages ou de la circulation des vidéos dans les infrastructures, ou encore, c'est la TV sur IP qui arrive. Alors, c'est encore des services un peu différents. C'est des services gérés, managés, qui n'ont pas les mêmes règles tout à fait, mais il y a le jeu vidéo en ligne, etc., qui sont arrivés. Et donc, on a une chaîne économique de l'Internet qui s'est extrêmement complexifiée, qui, par ailleurs, se pose bien des questions sur à qui doit profiter finalement cette manne, on pourrait dire, que constitue l'économie Internet, et en particulier les fournisseurs d'accès soulignent à quel point la santé des pure players de l'Internet, les Amazon, etc., est insolente, et à quel point c'est eux qui finalement sont les perdants de l'affaire. Très discutable. Avoir des chiffres très clairement allongés sur la table, c'est pas vraiment simple dans ces discussions non plus, pour savoir si réellement les acteurs, les fournisseurs d'accès seraient en difficulté ou pas. Leur santé financière ne semble pas si déplorable. Après, on peut peuvent considérer que c'est pas eux que profite le plus, hein, ce développement de l'économie Internet. Mais en tout cas, les fournisseurs d'accès soulignent à quel point ils doivent constamment investir pour nous apporter, hein, des infrastructures efficaces, un service, hein, qui, en termes de débit, de rapidité, d'absence de temps de latence, etc., soit satisfaisant. Et ils posent la question, qui va financer les évolutions récurrentes que nous devons faire ? Nous devons constamment absorber plus de flux, il y a de plus en plus, hein, il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions de débit, il y a des évolutions de flux, qui doit payer ? Et c'est là qu'on retrouve nos affaires précédentes. En gros, il y a deux réflexes. Je reviens en arrière. Le premier réflexe, fin de l'Internet illimité, c'est je me tourne vers les internautes. Et ceux qui consomment le plus vont aussi payer le plus. Pourquoi ne pas mettre en place, hein, des systèmes à plusieurs vitesses ? Pourquoi ceux qui encombrent les tuyaux par leur consommation de données ne seraient-ils pas ceux qui rétribuent aussi l'évolution des infrastructures pour tous ? Deuxième solution, bah, c'est celle qu'a adoptée Free, qu'a mise un peu en avant par cet acte Free, c'est-à-dire je me tourne vers les fournisseurs de contenu. Je vais aller chercher l'argent non pas dans la poche des internautes, mais du côté des grands fournisseurs de contenu en leur demandant de contribuer aussi, puisque je transporte leur flux, à l'évolution de mes infrastructures. Ce à quoi les fournisseurs de contenu disent, écoutez, vous n'êtes pas sérieux, vos tuyaux sans contenu, ça ne sert à rien. Donc on contribue non seulement à la demande et vous avez besoin de contenu, et par ailleurs, ils vont mettre en avant le fait qu'ils contribuent par d'autres moyens, en finançant notamment des opérateurs de transit et d'autres, hein, à toute la chaîne Internet. Mais on voit bien là qu'il y a des choix, en tout cas, hein, qui peuvent se tourner vers les uns ou vers les autres. Alors évidemment, ces questions ne sont pas non plus sans effet sur l'accès, par exemple, au contenu. L'idée de se tourner vers les fournisseurs de contenu pour leur demander de contribuer au financement des infrastructures, c'est ouvrir la voie éventuellement à des marges arrières des fournisseurs de contenu vers les fournisseurs d'accès et les opérateurs de transit. En gros, c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est de dire que certains pourraient payer, dans ces cas-là, et d'ailleurs, ils n'y verraient absolument aucun inconvénient, pour que leur contenu soit transporté prioritairement et aille plus vite que les autres. C'est pas forcément non plus une solution souhaitable, hein, de dire que ceux qui ont les moyens et ceux qui paieraient le plus pourraient systématiquement, et quand on sait à quel point un temps d'attente est important ou pas, hein, pour un accès à Internet, l'envie de consulter des contenus, etc., on se dit, bon, il y a là des enjeux effectivement importants. Ça peut même aller plus loin, puisqu'on voit actuellement tout un système de rachat entre fournisseurs d'accès, fournisseurs de contenu, etc. Prenons l'exemple de Orange et Deezer. Certains craignent qu'il y ait par ailleurs des accords pour favoriser certains fournisseurs de contenu au détriment d'autres et qu'ainsi on crée des silos où chaque opérateur de transit pourrait privilégier l'arrivée d'un certain nombre de contenus, laisser de côté toute une partie de l'Internet, au contraire, ceux qui n'auraient pas payé assez ou qui auraient été moins offrants. Et on a vu un certain nombre de discussions, hein, de géants comme Google avec des opérateurs, notamment de téléphonie, etc., qui font évidemment penser que ce n'est pas uniquement là des idées, hein, à la légère. Donc on a bien un danger qui est celui, enfin danger après, tout dépend, enfin là je dis danger, mais certains y verraient d'énormes avantages, hein, on peut raisonner de façon totalement différente, mais d'accord entre fournisseurs de contenu et fournisseurs d'accès pour privilégier certains contenus. Et c'est donc là Je crois, moi j'arrive un peu vite là-dessus, que justement, je vous disais, danger, on touche aux imaginaires et aux valeurs. L'air de rien, je crains moi-même de ne pas faire preuve d'une entière neutralité de propos à certains moments, tout en ne cherchant pas du tout à imposer une vision de la neutralité, mais il y a des conceptions et des imaginaires de l'Internet qui sont extrêmement différents. Et je citerai ce très beau titre d'un ouvrage de Joël Faucillon qui s'intitule « Rêveur marchand pirate ». Que reste-t-il du rêve Internet ? Le rêve de l'Internet, il n'est pas le même pour tous. D'accord ? Les usages marchands ne sont pas un rêve des pionniers de l'Internet ou de certaines communautés sur Internet. Pour d'autres, au contraire, hein, c'est une des raisons d'être de l'Internet. Et pensons d'ailleurs au rapport Bangeman, à tous les rapports de l'Union européenne ou à toutes les politiques dans la seconde moitié des années 90 en faveur de l'Internet. On le voit comme un outil de développement en pleine période de dérégulation des télécoms et un moteur économique. Donc il ne s'agit pas d'opposer de façon manichéenne les usages commerciaux qui seraient qu'il faudrait réprouver sur Internet face à la grande liberté d'échange qui régnait auparavant, mais peut-être de réussir à équilibrer justement ces différentes visions, évidemment difficilement conciliables, entre les rêveurs, les marchands et les pirates. Et cette question de la neutralité, justement, elle touche profondément à nos imaginaires et à nos valeurs. Alors, un débat en particulier est sur la question de l'innovation. Serait-elle paralysée ou non si l'on mettait fin ou si au contraire on valorisait la neutralité de l'Internet ? Certains vous diront que légiférer sur l'Internet, c'est la vision de Ends of the Internet, c'est déjà bloquer tout ce système d'innovation absolument fabuleux qui s'est créé autour l'Internet et qu'il ne faut pas toucher à la liberté d'entreprendre. D'autres, au contraire, toujours au nom de cette liberté d'innover, d'entreprendre, disent « protégeons la neutralité de l'Internet ». Si vous autorisez, par exemple, des marges arrière que certains puissants puissent financer des arrivées de contenu plus rapides, ça crée un ticket d'entrée sur l'Internet qui empêchera toute innovation et toute arrivée de nouveaux entrants. Et vous voyez que sur la même question, tout simplement, de la liberté d'entreprendre, de la liberté d'innovation ou de comment préserver cette capacité à innover sur Internet ? Les visions sont divergentes. Toujours est-il que certains rappellent, et là encore je me retourne vers les pères fondateurs, à quel point l'idée du end-to-end, du bout en bout, et cette idée de placer l'intelligence à la périphérie du réseau a été un profond moteur de l'innovation. En disant ce qui a fait le succès de l'Internet, c'est cette capacité à pouvoir en bout de chaîne innover, inventer et finalement mettre des applications sur le marché où seul le succès public, par le public, tranché ou pas. On pourrait citer de multiples exemples, mais c'est notamment le procédé développé par l'entreprise Real Networks, premier protocole de flux audio en 95. De flux audio en 95 qui a été porté de cette façon et un certain nombre d'innovations qui n'ont pas nécessité de leur fondateur justement de commencer à négocier pour qu'on transporte leur contenu et pouvoir innover. Donc on a là une question évidemment qui est absolument centrale. Autre question, c'est celle du statut de l'Internet entre, pourrait-on dire, bien commun et jardin privé. Je suis en train de surveiller l'heure, c'est beaucoup trop long, oui, parce que je n'ai pas vu passer le temps, j'espère que vous non plus, mais je vais accélérer largement, tout en m'arrangeant pour dire malgré tout l'essentiel de ce que je comptais vous dire. Entre bien commun et jardin privé, la question, c'est tout simplement, certains voudraient voir l'Internet comme un bien commun, et c'est vrai que beaucoup des protocoles de l'Internet et de la gouvernance de l'Internet reposent sur l'idée de standards ouverts et l'idée d'un bien commun. Face à ça, on a de plus en plus la dénonciation. Je vais commenter après cette image. En fait, j'aurais pas dû là. J'y arrive. Il y a l'idée de plus en plus de silos d'étanchéité ou de jardins privés qui se créeraient. À savoir des empires tels que Apple, tels que Facebook ou d'autres qui enfermeraient les usagers dans leur système. Usagers, par ailleurs, profondément satisfaits ou contents des services qui leur sont fournis. Mais il y aurait ainsi un morcellement, une fragmentation, on pourrait dire, de l'Internet, que ne ferait que renforcer notamment l'informatique en nuage, qui nous rendrait aussi tributaires d'un certain nombre de fournisseurs de services. Donc on a une question essentielle qui est posée là. Donc on voit, et j'y reviendrai après, voilà, un certain nombre de visions de l'Internet qui s'opposent, à savoir à votre gauche, l'idée de préserver à tout prix, par exemple, la liberté d'entreprendre ou innover qui irait en opposition pour certains à l'idée de légiférer. Laissons le marché trancher. Pour d'autres, au contraire, l'importance de préserver un Internet libre, ouvert, neutre. Alors, je reviens un peu dans le désordre, et vous m'en excuserez, à un des enjeux essentiels. Je vous ai dit, le problème pour trancher dans tout ça, c'est qu'on n'a pas toujours des chiffres à plat. On n'a pas toujours tous les éléments qu'on pourrait souhaiter avoir mis sur la table. Et puis, on n'a pas toujours toutes les données. Il ne s'agit pas uniquement de chiffres financiers, mais aussi de comprendre le fonctionnement à l'heure actuelle d'un réseau des réseaux qui n'a fait que croître et qui devient de plus en plus compliqué à analyser. Et ici, vous voyez Claude Kirchner qui travaille à l'INRIA et qui, en gros, proposait l'idée de mesurer la neutralité du net et qui nous dit on ne comprend plus son comportement dans sa globalité. À une plus petite échelle encore, on le comprend encore. Or, la neutralité des réseaux s'appuie sur la connaissance que l'on a de ces réseaux. Et donc, naît l'idée de concevoir des outils qui nous permettent d'observer Internet. Il y a cette difficulté aujourd'hui à même comprendre le fonctionnement du réseau de manière globale. Et un certain nombre de propositions qui vont en faveur d'observatoires, de la neutralité ou de mesures. La bataille des chiffres est facile à partir du moment où on a justement un manque de transparence. On peut brandir ce qu'on veut. Et justement, en termes d'observatoire, alors c'est un observatoire là qui est totalement différent, c'est celui de la quadrature du net, notamment, avec un site Respect My Net qui, lui, recense les atteintes à la neutralité qui seraient répercutées par notamment les différents usagers à l'échelle à minima européenne. Je ne sais pas s'ils prennent en compte également les États-Unis. L'idée étant qu'il y a là un combat à mener pour la neutralité de l'Internet qui, évidemment, implique bien plus que uniquement une équité ou pas de transport d'informations. Alors, dans les quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais évoquer une question complexe, mais que je vais simplifier, qui est celle de la gouvernance et des acteurs de ces questions. Alors, ce schéma est difficilement compréhensible sur la gouvernance de l'Internet et ça résume en soi toute la difficulté. Qui gouverne l'Internet? Qui prend les décisions sur Internet? Je vous ai évoqué une multitude d'acteurs au travers de cet exposé, parmi lesquels, si on récapitule, des fournisseurs d'accès Internet, des fournisseurs de contenu, mais aussi des autorités de régulation, mais aussi la justice. Et puis on a des architectes, des pères fondateurs de l'Internet qui se mêlent également des débats. On voit des politiques un peu partout arriver, l'échelon européen, l'Union européenne avec le paquet télécom. Enfin, on voit là. Et puis des associations, de la société civile, Free Press, la quadrature du net, etc. On voit donc une multitude d'acteurs, évidemment, tous avec des objectifs assez différents et difficilement conciliables, et puis des batailles sur la légitimité de chacun à se prononcer sur ces questions de ne parle pas de gouvernement, mais de gouvernance de l'Internet, d'édiction de règles sur l'Internet. Et finalement, cette neutralité de l'Internet, elle n'est qu'un microcosme de débats plus généraux sur le fonctionnement de l'Internet et de visions totalement divergentes de qui doit prendre les décisions. Certains, dans la gouvernance, estiment que ce qui doit décider la gouvernance, hein, les règles, seront édictées par le marché. Gouvernance par le marché. Pour d'autres, la gouvernance doit se faire par des organismes transnationaux. Lesquels ? Lesquels choisir ? En particulier, se joue à l'heure actuelle une bataille entre des organismes de gouvernance qui sont nés dans le milieu des techniciens de l'Internet aux États-Unis, ceux par exemple qui distribuent les noms de domaine, l'ICANN, et puis l'ONU, hein, qui aimerait récupérer, soutenu par un certain nombre de pays, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine notamment, hein, la main sur l'Internet. Depuis, et après je vais conclure, mais 2003-2005, sommet mondial sur la société de l'information qui a défini justement la gouvernance de l'Internet comme la rencontre des politiques, mais aussi des entreprises privées et de la société civile, a notamment été créé un forum sur la gouvernance de l'Internet, qui discute de tous ces enjeux. Et j'en profite pour évoquer, puisque je vous l'avais amené, la création notamment dans ce forum de gouvernance de l'Internet d'une coalition dynamique qui est celle sur la neutralité de l'Internet. Donc on voit qu'il y a là un enjeu, qui est un enjeu de gouvernance mondiale. Ils viennent de sortir un petit livre, ils sont nés à l'été 2013. On y retrouve ici tout un groupe d'acteurs internationaux qui, à l'échelle de l'IGF, du forum sur l'Internet Governance, mais aussi à l'échelle donc plus largement, ils espèrent des répercussions au niveau de l'ONU et autres, portent les valeurs de la neutralité. Donc on voit là un enjeu qui est évidemment important. D'autres pensent au contraire que la gouvernance de l'Internet, c'est une affaire nationale. Bon, il faut être un peu naïf aujourd'hui pour penser, bien sûr, qu'on peut, au niveau national, légiférer seul sur l'Internet. On essaye, notamment, régulièrement en France. On se heurte en général assez rapidement à des réalités politiques, mais aussi tout simplement techniques. Et c'est là-dessus que je finirai peut-être en expliquant aussi à quel point le débat sur la neutralité de l'Internet n'est pas vécu de la même façon dans tous les pays. Et en particulier, dans l'espace médiatique américain, c'est souvent la liberté d'entreprendre et d'innover qui est portée sur le devant de la réflexion. Alors qu'en France, on va être beaucoup plus sur le terrain des droits du citoyen internaute et invoquer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le droit à l'accès à l'information, tout ça sur fond de débats, Hadopi, Lopsi et autres. On a une tendance à politiser davantage en termes de droits ces questions, ce qu'on retrouve par exemple dans propos de nos politiques, Christian Paul que j'évoquais précédemment ou Laure de la Raudière qui dans son rapport provisoire ouvrait sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et comptait inscrire l'objectif politique de la neutralité de l'Internet de façon extrêmement claire. Ajoutons que, bien évidemment, les structures économiques sont très différentes et l'offre est très différente entre États-Unis et France, et Europe même. Bon, non seulement on a le bénéfice de ces forfaits illimités depuis 2002, quand même des offres en France qui sont bien plus intéressantes que dans d'autres pays. On est peut-être davantage sensible à les conserver. Par ailleurs, on a un système de concurrence et d'offres plus fermées aux États-Unis que sur le sol européen. Et je n'ai pas le temps d'évoquer l'incapacité des Européens, en tout cas, à discuter ensemble et à se mettre d'accord sur les questions de neutralité. Mais entre le point de vue britannique, le point de vue français ou encore la Slovénie ou les Pays-Bas qui, eux, ont légiféré en faveur de la neutralité, on a toute une palette de positions extrêmement divergentes. Et une commissaire européenne, Lily Kroes, qui glisse de plus en plus de l'idée de neutralité à celle de transparence. En gros, et là-dessus, je m'arrête, on voit un glissement peu à peu sémantique qui dirait finalement, tant que c'est transparent, pourquoi pas, en gros, porter atteinte, entre guillemets, à la neutralité, c'est-à-dire tant que le consommateur est averti. Après tout, ça va. Donc, on voit premièrement que ce débat sur la neutralité de l'Internet est partial, en tout cas, qu'il, des points de vue divergents convergent, qu'il est peut-être aussi, partiel, en tout cas qu'il demande à prendre en compte une multitude d'autres enjeux. Et pour finir, j'espère juste avoir réussi en tout cas à vous montrer que ce qui touche aux architectures techniques a bien sûr des implications également politiques et économiques et réciproquement. C'est-à-dire que discuter d'architecture, discuter de technique, évidemment, n'est pas anodin pour le futur de l'Internet.
Réduire le temps, mais c'est une heure et vous aurait écouté plus longtemps avec plaisir.
C'est un sujet
complexe, vous avez réussi à rendre clair et je vous remercie vraiment. J'espère. Donc j'espère que ce sujet d'Internet a suscité des questions dans le public.
Donc, moi, je pensais, si vous êtes au courant de ce qui s'est passé entre l'ONU, la branche féministe de l'ONU, et Google, récemment, non ?
Non, mais vous allez me l'apprendre.
D'accord. Dans Google, quand on tape « les femmes doivent », ça propose « doivent-elles travailler, être soumises ?» des
D'accord.
choses comme ça.
Bon.
Est-ce que ça rentre dans le cadre de cette conférence ? Et je veux savoir ce que vous en pensez, en fait.
Alors oui, bien sûr. Alors je connaissais malheureusement ce cas sur d'autres cause où voilà que les femmes, et notamment j'avais assisté à une très très belle conférence d'Olivier Hertzscheid sur ces questions, qui est beaucoup plus compétent que moi sur la manière dont les moteurs de recherche, etc., ont fini aussi par créer des propositions, des besoins et enfermer d'une certaine façon aussi les internautes. Alors, est-ce qu'on est dans une question de neutralité de l'Internet au sens strict ? Certainement pas. Est-ce qu'on est dans un enjeu fondamental en termes d'accès à l'information ? Oui, à 100%. Et c'est bien pour ça qu'on peut dire qu'à un moment, on doit peut-être dépasser aussi ces couches de transport et voir si ces atteintes à la neutralité ne se propage pas de couche en couche, et on le voit très clairement, c'est les plus 1, les highlights, etc., qui enferment aussi l'internaute dans finalement tout un système de propositions. C'est avec tous les bénéfices aussi que peuvent apporter de telles choses. On est tous ravis quand on va sur Amazon, par exemple, de trouver des propositions qui correspondent à nos goûts. Et en même temps, ça pose la question des traces, de l'usage, également des données qu'on laisse sur Internet. Donc voilà. Donc là, cette capacité des moteurs nous inciter à la consultation, nous orienter vers des contenus, elle est extrêmement, extrêmement intéressante. Je la définirais pas au sens strict. Et puis alors là, c'est après comme une atteinte à la neutralité, mais elle pose aussi question.
Des fois, on se balade sur des pages et on arrive sur des trucs qu'on voulait absolument pas avoir à la base. Voilà, ça me faisait penser à ça. Merci.
Oui, mais alors c'est... Oui. Et en même temps, c'est compliqué. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'Internet, à la fois de pouvoir découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Le principe, certains vous diraient le principe de sérendipité, de la rencontre au hasard, etc., doit être préservé sur Internet. Très, très compliqué, effectivement, ces questions de... On n'arrive pas toujours où on veut, on ne voit pas tout... Et en même temps... Eh bien, les implications qu'aurait aussi ce type de questions. Donc, c'est.
Je vous remercie pour votre conférence. Vous avez commencé à nous adresser tout l'historique. Vous avez commencé dans les années 70, mais est-ce que la neutralité du net n'est pas un resurgence d'un vieux débat qui existait déjà lors de l'apparition des premières formes de télécommunication avec le courrier ? Est-ce qu'il faut ouvrir le courrier ou pas l'ouvrir ? Qui existait des années 1800. Et je pense après qu'il y a dû avoir des questions similaires au niveau des téléphones, mais j'en sais pas trop.
Oui, si, il y avait bien des questions au niveau du téléphone, et notamment de la façon dont les demoiselles du téléphone, ou dans les campagnes états-uniennes, les opératrices pouvaient espionner ou pas ce qui se disait en conversation. Alors, Oui, on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des débats comme ça qui traversent toute l'histoire des télécommunications sur la notion de vie privée, et ça se pose d'ailleurs dès le télégraphe. La neutralité de l'Internet est plus large que uniquement la question de la protection, on va dire, de la vie privée ou des données confidentielles, mais l'inclut. Par contre, là où c'est compliqué avec le modèle Internet, par exemple, par rapport à un modèle, le modèle de la radio ou d'autres, c'est qu'il est en permanence entre ce qu'on peut appeler le one-to-one et le one-to-many. C'est-à-dire que ça s'est posé au début de la radio avec Marconi. Est-ce qu'on faisait un usage, en gros, de un à un ou un usage de diffusion ? Et souvent, dans les médias, on a tranché le téléphone, c'est du one-to-one, la radio, c'est du one-to-many, on va dire très rapidement. L'Internet, c'est les deux à la fois. Et ça pose vraiment des questions de régulation, des questions également économiques qui sont complexes et qui, en cela, en font un médium totalement inédit. Mais vous avez raison, en tout cas, à 100% sur l'idée qu'il y a le temps long, là, nous éclaire le Minitel. Hein, il n'y a rien de neuf depuis le Minitel. C'est un peu exagéré, mais en tout cas, on voit énormément d'usages similaires et de questions, et sur la surveillance, la revente des données, etc. Ça s'est posé déjà au moment des expérimentations sur le Minitel au début des années 80. Donc, il y a des débats comme ça qui sont effectivement récurrents. Avec toutefois, dans le cas du Minitel, un enjeu qui restait essentiellement national. Et là, on est en plus sur un réseau d'extension complexe au niveau mondial, donc ça complexifie encore.
Prenons un petit exemple. Quelle serait l'instance qui pourrait empêcher, par exemple, le blocage des données chinoises ? Si la Chine bloque, par exemple, l'Internet, ou si un pays bloque l'Internet, quelle est l'instance qui peut se permettre de raccorder les réseaux de...
Alors, enfin... En soi, d'ailleurs, la Chine a étendu une véritable muraille électronique et n'hésite pas à filtrer les contenus, à créer un intranet, on pourrait dire chinois, à jouer également sur les noms de domaines finalement créer des silos d'étanchéité. Alors, ce que vous dites est extrêmement important parce que, d'une part, cette question de la neutralité de l'Internet, elle peut paraître un problème de pays démocratiques en gros, je ne poserai pas le débat sur la Syrie ou la Chine en termes de neutralité de l'Internet, mais tout simplement de démocratie et d'accès. Mais c'est tout à fait pertinent. Est-ce qu'il y a une instance qui peut faire quelque chose ? Ça me paraît compliqué. Des solutions, il y en a de plus en plus qui se développent, et notamment... émanant très clairement du monde militaire, qui a un certain nombre de technologies ou du monde d'activistes extrêmement bien équipés qui sont capables de dépasser un certain nombre de frontières plus ou moins considérées comme étanches pour des enjeux vraiment de terrain ou stratégiques. À part dénoncer ou dans le cas de la Chine, je pense que pour l'instant c'est loin d'être simple. La possibilité de couper l'Internet d'un pays en cas de conflit, elle est réelle. On a eu quelques exemples à travers l'histoire. Ça émanait en général des États-Unis, ces décisions. Il y a 10 000 façons, on pourrait dire aussi, par des attaques, etc., de mettre un pays en difficulté, ses accès à Internet. Et là, le monde de la cyberdéfense est vraiment... c'est devenu un enjeu militaire extrêmement important. Après, en termes d'instance, on pourrait dire morale, je serais tentée de penser que l'ONU peut avoir autant d'efficacité que dans d'autres domaines pour se prononcer. Donc voilà, ça laisse à la fois tous les possibles et toutes les limites ouvertes de telles...
Une petite question autre. Je pensais que, par exemple, dans le cerveau, quand il y a un problème de thrombose dans le cerveau, il y a toujours des possibilités de passer ailleurs. Mmh. Est-ce que l'Internet peut réagir comme ça ?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà... Enfin, je ne veux pas être hors sujet en vous répondant ça, mais... passer ailleurs, même au sein de l'Internet. On parle beaucoup à l'heure actuelle, on découvre l'Undernet et tout ce qui n'est pas notamment référencé par des moteurs de recherche classiques, par le web. Il y a déjà des tas de portes totalement inconnues de la plupart des internautes qui permettent, quand on le souhaite, de passer outre. Il y a par ailleurs des appels de certains à une refondation de l'Internet qui dit l'Internet n'était pas la seule voie, il est temps de refonder sur des bases nouvelles ce réseau qui a fait des miracles mais qui commence à atteindre ses limites. Hein. On voit notamment en termes, le passage à l'IPv6, mais de nom d'adresse, etc. Est-ce qu'on peut contourner par ailleurs l'Internet général? Oui, on a déjà des tas de choses, des intranets, des tas de choses qui ne sont pas forcément reliées au réseau général et la capacité à créer d'autres formes. Effectivement, de communication qui ne se mêlent pas. C'est déjà le cas de beaucoup d'usages. Dans les usages scientifiques, je prends un exemple tout bête, les flux qui permettent de travailler sur au CERN, enfin entre physiciens ou sur des expériences particulièrement importantes en termes de transfert, mais aussi en termes de confidentialité, ça ne se balade pas sur le web et sur la face émergée de l'Internet. On a des réseaux spécialisés très haut débit. Et d'ailleurs, vous m'arrêtez si je suis trop bavarde, mais vous évoquiez l'ouvrage sur l'histoire de Renater, hein, le réseau pour l'enseignement, la technologie, enfin technologie, enseignement et recherche. En 93, en France, on a développé un réseau particulier, pionnier, il n'y avait pas encore d'Internet grand public développé à l'époque, mais pour le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on ne se mêle pas, on ne prend pas... un FAI classique, Orange ou autre, on met en place un certain nombre de sécurités. On peut aller sur le web, mais on ne mélange pas tout non plus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs façons de répondre à votre question. J'espère qu'il y en a une qui est bonne.
Oui, vous commencez à aborder cela. Le domaine du secret. Secret en science, est-ce que la science est universel, est-ce qu'il est réellement partagé? Et dans mon petit domaine qui est le domaine médical, est-ce que la médecine est vraiment universelle? Est-ce qu'elle est vraiment partagée? Tout le monde va sur le net. Après, on se dit, oui, mais avons-nous la capacité de répondre là où nous sommes à ce qui est annoncé sur le net? Le traitement d'une maladie X qui est impossible dans certains pays est possible dans d'autres. Alors pourquoi ce qui est valable sur Internet annoncé n'est pas valable effectivement en pratique là où le patient est?
Alors ça pose une, enfin
plus. Mais c'est d'énormes problèmes philosophico, éthiques, tout ce que
tout
vous
à fait.
Ça m'intéresse un petit peu, mais je suis quand même un peu hors sujet.
Oui, en même temps vous soulevez une question qui est pas finalement, si hors sujet, c'est pas la neutralité de l'Internet, mais il y a la question premièrement de l'open science qui à l'heure actuelle devient, et là on retrouve l'idée d'open qui, je vais pas dire contaminée, parce que ça serait négatif même si ça reste dans le registre médical, mais qui passe dans différents secteurs, c'est les données ouvertes, c'est la science ouverte, etc. L'idée d'ouverture qui peut être la mise à disposition de publications, la mise à disposition des données, la mise à disposition de résultats scientifiques en un vaste village global permis par le numérique, mais qui se heurte à des réalités qui sont effectivement des réalités ensuite de secrets. Alors que ça peut être du secret scientifique, est-il légitime ou pas, la question là du dépôt des brevets, des rivalités entre sciences nationales et tout, ça ouvre une boîte sans fond, mais il y a vraiment des débats, des discussions sur cette idée d'ouvrir la science, d'open science qui se pose. Vous posez effectivement plus largement la question, que ça soit dans le domaine médical ou ailleurs, de la circulation des savoirs, des connaissances et de la mise en visibilité aussi via le web ou l'Internet, des injustices, des fractures, des inégalités qui, effectivement, sont peut-être encore plus visibles qu'autrefois par le numérique. Donc, c'est évidemment pas de réponse à toutes ces questions, mais en tout cas, c'est des questions éthiques, philosophiques et autres qui sont effectivement essentielles à se poser.
Vous viendrez au Forum Médicaments qu'on organise la semaine prochaine, on parle de cette question.
Dernière question, monsieur. C'est un peu... Non, parce que là, c'est au niveau des... des Américains qui ont surveillé les communications, je veux dire. Voilà, alors là, est-ce qu'on peut parler de neutralité quand, de ce qu'ils ont fait ?
Non, évidemment pas. Là, c'est pour ça que je vous dis le débat sur la neutralité, il est partiel, il est aussi partiel. En même temps, sans imaginer l'ampleur de ces événements, je pense qu'on était quand même très nombreux à se douter quand même qu'on est observé sur Internet, qu'on ne vit pas en pleine impunité, observé par les entreprises, parce que Big Brother, aujourd'hui, ça peut être l'État, ça peut être le monde de l'entreprise privée. C'est vrai que j'avais pas, imaginé des écoutes d'une telle ampleur, effectivement. Mais on voit bien là qu'il y a des questions qui se posent, hein, qui sont même plus de l'ordre de la neutralité, mais bon...
J'entendais, c'est un autre sujet, mais ça dans le même sens. J'entendais une émission à la radio l'autre jour sur Facebook et une professeure d'université disait en fait à ses élèves quand ils voulaient trouver un boulot qu'ils nettoient d'abord leur page de Facebook parce que tout le monde y a accès et que ça peut provoquer des problèmes. Oui, donc c'était un conseil qu'elle donnait.
Toute la question du droit aussi à l'oubli, hein, qui a été posée en termes d'ailleurs politiques, c'est comment a-t-on le droit d'effacer, enfin peut-on effacer ce droit à l'oubli qui commence à être revendiqué pour effacer ces traces numériques. Ouais.
Et j'ai vu aussi un reportage l'autre jour sur des hackers qui sont, c'était assez amusant de voir des hackers qui sont embauchés par des entreprises. C'est très très sérieux justement pour résoudre les problèmes d'accès à l'Internet, enfin de non-accès à l'Internet. Donc on voit quand même que dans le monde de l'entreprise à un certain niveau, parce qu'il faut quand même aussi pouvoir payer les gens, il y a quand même une autodéfense qui s'organise. C'est pas au niveau national ni international, on se défend.
Oui. Les entreprises de plus en plus sont extrêmement vigilantes à tout ce qui est système d'information, protection de leurs données, etc. Ce qui est très compliqué à l'heure actuelle avec les terminaux qui se baladent, les mélanges parfois entre vie professionnelle et vie privée qui sortent également du bureau. Mais c'est un enjeu effectivement décisif. Et il y a des entreprises de nettoyage de la réputation sur Internet qui se créent aussi pour vous rattraper. Donc on voit là de nouvelles entreprises. Je pense qu'on ne devrait pas en sourire. Elles vont, à mon avis, là, devenir essentielles à l'avenir. Ouais.
Bon, merci à vous. En tout cas, ça a suscité des questions. Il est plus large aussi que la neutralité, hein, bien sûr.
Et c'est moi qui vous remercie.
Merci,
en tout
au revoir.
Cas.
Merci.
Pas très bien géré mon temps, j'en suis désolée. Mais ça, voilà. Alors, écoutez, j'avais amené un autre que le mien. C'est un petit essentiel. Donc, c'est une forme, on reprend d'anciens articles de la revue Hermès. Et là, on avait fait un format différent. Si on ne voulait pas juste reprendre, on voulait écrire sur ce sujet. Donc, ce petit livre pédagogique.
Il n'est pas trop cher, c'est bien. Achetez-le dans une librairie.
Oui. Merci bien.